Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page. Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical chaque semaine et pendant 30 minutes sur vos ondes engagées. Oui, oui, ça existe encore des radios qui fonctionnent sans publicité et qui ont le verbe haut et la liberté de le dire. Chaque semaine donc, je partage avec vous un bouquin qui m'aura permis le grand voyage, celui qui ne s'achète pas mais qui vaut cher, très cher. Roman, BD, album jeunesse, qu'importe. Tant que le talent est au rendez-vous, banco et vendons la caravane, tant qu'on sort de la soupe et du tiédas, tant qu'on cesse enfin un peu de nous prendre pour des ânes, des moutons. Ils sont encore nombreux les artistes qui permettent cela. Il en va de notre responsabilité de leur montrer notre reconnaissance ici et celle qui leur permettra de manger aussi. Ceci étant posé, pour y arriver donc à vous donner envie de vous procurer un bouquin et de vous le passer entre vous avec la ferveur qui va avec, je chronique bien sûr, j'interviewe l'auteur quand c'est possible et puis, et tout est là, je vous propose une playlist par ouvrage, histoire de vous restituer différemment des émotions par d'autres émotions, encore histoire de sortir des entre-soi, histoire de faire des ponts, en veux-tu, en voilà. Au sommaire de ce numéro, un roman, mais enragé. Son titre, c'est Vénère, écrit en langage SMS en rouge sang, surmonté de taches de sang, justement, sur fond jaune. Son auteur, c'est Laurent Chalumeau, et l'éditeur de cette bombe-là, c'est cette bombe munie de bien des degrés, d'ailleurs, ce sont les éditions Grasset. Et avant de vous en dire plus long, et surtout, oyez, oyez, avant de recevoir Laurent Chalumeau, merci à lui, ici même dans Rock and Page, d'ici une poignée de minutes, écoutons plutôt sa bim dans nos faces comme dans le roman.
Épouse d'inutiles regrets au fond de nos jardins secrets et dans leur coin le vieux remords 20 ans après fleurissent encore. Ainsi nos chemins se jalonnent de choses qu'on ne peut dire à personne, à personne, à personne. Ces fleurs clandestines tirent leur sève des pleurs qu'on ravale, des vieux rêves. Tout ce que nous sommes seuls à savoir devient le lierre de nos mémoires et donne à l'air le goût d'automne. Des choses qu'on ne peut dire à personne. L'épreuve où l'on s'est trouvé lâche
à personne.
Et les tristes courages qu'on cache. Se pardonne les choses qu'on ne peut dire à personne. À quoi servent les vieux regrets que l'on n'exprimera jamais? Pourquoi donc tous ces vains remords reviennent nous accuser encore? Et le cœur peine chargé du poids de ce que l'on doit garder pour soi. Chargé du poids de ce qu'il ne peut dire même à toi. Même à toi.
C'était Bertrand Burgala avec ce titre, Les choses que l'on ne peut dire à personne, pour illustrer aujourd'hui dans Rock & Page cette incroyable romance, monologue déchaîné, enragé, que nous offre Laurent Chalumeau avec Vénère, tout récemment paru chez Grasset. Alors Laurent Chalumeau, pour la petite histoire, il est journaliste, scénariste. Vénère, c'est son 13e roman et c'est quand même le garçon qui écrivait les textes d'Antoine de Caunes, me semble-t-il, dans Nulle part ailleurs. Il vient clore une sorte de trilogie, en tout cas de diptyque, les deux romans précédents s'intitulant VIP et Kiff, sauf que là, il ne donne pas la parole à la même classe sociale, sauf que cette fois, il ne déjoue pas trop les codes du noir, mais détourne plutôt ceux du pulp, et que cela donne une lecture époustouflante. Ceci étant posé, voilà de quoi il retourne dans Vénère. Apprêtez-vous à devenir, en quelque sorte, et vous aussi, l'otage retenu par Alain. Or, Alain est l'homme blanc, quinca, périmé par excellence, et qui dit périmé, dit toxique. Alain vivait avec sa femme et leurs enfants en province, ils avaient une bande de potes, avec des enfants du même âge, deux jobs et un train de vie moyen et une sexualité, disons, épanouie et plus si affinité, genre tourner mes yeux vers Ardisson et compagnie. Je vous déballe pas tout, je laisse le soin à Alain de s'en charger. Tout allait bien. Sauf que dans la même période, délocalisation, chômage pour Alain et pour sa femme, harcèlement sexuel du patron allant jusqu'au procès. À la suite de quoi, Alain perd tout. Les potes, sa femme, les enfants et son taf. Alain décide alors de prendre en otage les trois personnes qu'il pense être responsables de sa faillite, les enferme dans sa résidence secondaire, et on ne sait pas trop ce qu'il adviendra de trois, la fin restant relativement ouverte, je ne peux décemment pas vous en dire plus. Ces trois personnes qu'il va kidnapper sont le patron de sa femme, le ministre qui a participé à la délocalisation, et enfin la psy de sa femme, dont il pense que c'est elle qui a transformé en profondeur celle-ci. Et à eux trois, et nous avec, il va dérouler une immense litanie gouailleuse à souhait qui explique justement sa faillite et comment les choses se sont passées. Au détail près que jamais aucun des trois personnages n'aura la parole et que tout se déroule devant un homme cinéma, celui d'Alain, sur lequel il leur projette les films qu'il a tournés lui-même toute sa vie avec sa femme et leur sexualité, et des scènes plus traditionnelles, genre de vacances ou de soirées, avec les enfants et la bande d'amis. Et moi, avant de recevoir Laurent Chalumeau, ce personnage d'Alain, je vous le dirais bien comme ça, à vrai dire.
Stop. We'll be right back.
Les Pixies, évidemment, avec ce titre « Where is my mind ?» pour vous dire aujourd'hui, d'une autre façon encore, le personnage unique, central en tout cas, du tout dernier roman de Laurent Chalumeau, qui s'intitule « Vénère » et qui est sorti chez Grasset et qui est aujourd'hui à l'honneur dans Rock and Page. Et puis d'ailleurs, on arrête tout et je reçois Laurent Chalumeau. Laurent Chalumeau, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Je peux enfin libérer votre attaché de presse. « Vénère » est votre 13e roman. Il vient après « Kiff », ça c'était en 2014, et puis « VIP » en 2017. Expliquez-nous un peu comment il est né ce roman et est-ce que vous l'avez conçu en réponse ou plutôt en sorte de diptyque de VIP ?
Alors, je ne me suis avisé de ce qu'il constituait le contre-champ de VIP, enfin VIP comme vous voyez, VIP, oui. Moi je dis VIP. Je ne me suis avisé de ce que donc Vénère était un peu la réponse du berger à la bergère qu'une fois que j'avais eu fini le livre. Mais j'étais très contente de voir qu'il y avait du coup une certaine cohérence miroir ou des jeux de questions-réponses entre les deux livres. C'est-à-dire que VIP, comme son nom l'indique, passait en revue et un peu à la moulinette ce qu'on a, avec et sans guillemets, appelé les élites, surtout pour en dire du mal pendant la campagne électorale. Mmh. Et on opposait comme ça à l'espèce d'artificialité, de fausseté, de déconnexion des élites, toujours parisiennes, bobos, égoïstes, cyniques. On opposait donc à ces élites la supposée réalité, vérité, authenticité, concrétude des déclassés, des oubliés. Et après le chômeur polonais, on a eu droit au... le plombier polonais, on a eu droit au désormais légendaire, chômeur de Hénin-Beaumont. Et en fait, on pourrait envisager Vénère comme la réponse du chômeur de Hénin-Beaumont aux élites. Mais bon, c'est en même temps, je dis ça, vous le comprenez, avec la langue dans la joue, comme disent les Américains, c'est-à-dire que c'est évidemment avec des pincettes et avec un clin d'œil que je me retrouve à manipuler ces catégories qui étaient, vous l'avez identifié, des catégories qui servaient à Marine Le Pen pour faire sa propagande.
Tout à fait. Alors en fermant votre roman, je me suis dit que si je m'étais fait plus de soucis pour le patron, la psy et le ministre, alors en quelque sorte j'aurais lu un roman noir, très très ancré dans une époque, la nôtre, comme tout bon roman noir. Mais comme ça ne s'est pas déroulé tout à fait comme ça, et que j'ai aussi pas mal ri, je me suis dit que je venais de lire presque du pulp, ou du pulp détourné. Est-ce que vous partagez ma lecture ?
Ah, c'est complètement ça, c'est-à-dire que moi, le pulp, c'est que c'est... Bon, alors, en français, on appellerait ça les romans de gare, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais bon... enfin, cette espèce de para-littérature, enfin, c'est même pas de la littérature, c'est ces livres qui sont d'abord censés être de la lecture, et qui cherchent à attraper le lecteur par tous les moyens, y compris et surtout les moins avouables. Mmh. C'est quelque chose avec lequel j'ai toujours joué à cache-cache, parce que ma jeunesse, depuis le moment où j'ai eu envie d'écrire des livres, je trouvais qu'il y avait une espèce de noblesse dans cette façon de produire de la lecture, et puis après la littérature, éventuellement, il reconnaît les siens ou pas, mais d'abord commencer par intéresser le lecteur, par donner du plaisir au lecteur, et généralement, en plus dans le pulp, un peu comme dans le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma d'exploitation, ce qu'en France on appelle le cinéma bis ou les séries Z, sous couvert de grosses déconnantes, c'est aussi le moyen de faufiler au nez et à la barbe des autorités des petits énoncés bien énervés et éventuellement transgressifs en contrebande. Donc oui, alors j'aurais adoré être un vrai auteur de pulp, mais hélas, j'avais pas les qualités requises. C'est-à-dire que pour être auteur de pulp, il faut avoir une productivité de stakhanoviste, il faut avoir une imagination débordante, il faut pouvoir vraiment mettre du bois dans la chaudière en permanence. Moi, écrire un livre me prend un temps qui est complètement incompatible avec les cadences du vrai pulp ou des collections de romans de gare. Et puis j'ai pas vraiment une imagination qui me permet comme ça de sortir des intrigues tarabiscotées et haletantes comme ça, à profusion.
C'est ça. Alors finalement, le plombier polonais, c'est vous dans cette histoire. J'en ai longuement parlé dans la chronique. Vous nous posez quelque part en otage, nous aussi, face à cet Alain, donc la cinquantaine, qui, ayant tout perdu, n'ayant surtout plus aucun repère au milieu de l'évolution de la société, comme si totalement largué, il était devenu toxique, un peu périmé, le type. Il a perdu son travail, sa femme, ses enfants. Il prend en otage trois personnes dont il pense qu'ils sont responsables du naufrage, le patron qui a humilié sa femme, le ministre qui a travaillé à la délocalisation et donc voilà, chômage, et la psy qui, elle, selon Alain, a transformé sa femme. Alors même si évidemment la voix d'Alain n'est pas la vôtre, j'imagine que le choix des otages, Laurent Chalumeau, signifie tout de même sacrément quelque chose dans une dimension politique. Il est autant attachant que détestable, ce type, cet Alain, en fait. Ça nous met dans une drôle de posture, et vous avec, j'imagine.
Ben, c'était toute le... C'était tout l'agrément de l'écriture de ce texte. Et je pense que ça peut aussi constituer l'éventuel agrément de sa lecture. C'est-à-dire que si d'emblée le gars avait été unidimensionnel, si ça avait été juste un salaud avéré ou un psychopathe total, ben on repose le livre dès la troisième page, parce que la messe est dite. Là, ce qui était intéressant, c'était de présenter ce gars qui, effectivement, est arrivé au-delà de sa date de péremption. Il est devenu superflu, c'est-à-dire que la société peut continuer à fonctionner sans lui. Mmh. Le type est sans emploi, vous l'avez dit, il a perdu sa femme, ses enfants ne lui parlent plus, il ne comprend plus le monde qui l'entoure. Mais simplement, il décrète que si lui n'a plus rien à perdre et que donc sa fin est prochaine, il va pas disparaître tout seul et il va emporter des gens à qui il en veut, à tort ou à raison, avec lui dans sa chute. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que il fallait que le lecteur, passé l'effet de surprise, se dise finalement, moi je le dirais peut-être pas comme ça, mais il dit pas que des conneries, ce gars-là. Franchement, ça c'est intéressant. Et puis comme ça, on avance, et puis le lecteur se dit, ah non, là quand même, là il va trop loin, là. Non, moi j'ai rien de commun avec ce gars-là. Et puis, juste avant la fin, que le lecteur se fasse réavoir et dise, bah finalement, j'ai rien de commun avec ce gars, il est perdu pour la République, à tous les sens du terme, mais il a quand même des moments de vérité et des moments où il attendrit. Et c'est quelque chose que, je vais vous dire, quand j'ai vu que ce texte allait sortir, pour la première fois depuis que j'en publie, j'avais une petite appréhension, parce que dans le contexte qui a été créé, et fort heureusement, je m'en félicite, hein, mais dans le contexte général qui a été créé par les suites de l'affaire Weinstein, je me disais que je n'aurais pas, que le cas échéant, je ne pourrais pas trop en vouloir à une lectrice qui lirait, entre guillemets, mal ce livre et qui se méprendrait sur son propos.
Oui, mais alors là, vous êtes tombé sur une enragée, moi par exemple, et j'ai trouvé ça drôlement intéressant de poser la question de la femme qui envoie tous les codes de l'épanouissement sexuel, mais qui, quand même, rappelons-le, et c'est vous qui le rappelez, peut aussi dire non, en fait. J'ai le droit de porter ces codes-là, et j'ai aussi le droit de choisir avec qui je partage ma sexualité.
Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est juste... Dès l'instant qu'on a trois neurones alignés dans le même sens, et une boussole morale qui indique le nord plutôt que le sud, enfin, je veux dire, c'est l'évidence même, mais c'est une lapalissade, c'est un truisme, on devrait... La vie serait si on n'avait pas besoin de le rappeler. Ce que j'étais parti à vous dire, c'est que mon soulagement avait été, et ma satisfaction, j'ose employer le mot, avait été à la hauteur de mon appréhension initiale quand je me suis aperçu que les gens qui lisaient le mieux ce livre, c'était des lectrices qui non seulement ne se méprenaient pas sur les intentions de l'auteur, si j'ose parler de moi à la troisième personne, mais surtout trouvaient des moments de vérité ou des moments attendrissant au personnage. Et ça voulait dire que ça, ce ressenti de lecture-là, ça voulait dire que j'avais d'une certaine façon, ne serait-ce que techniquement, réussi mon coup et qu'on n'était pas juste dans une espèce de personnage loué dans une agence unidimensionnel, univoque, comme une espèce de méchante comédie aussi caricaturale que le savant fou dans un James Bond, quoi.
Tout à fait. Alors vous aussi, vous vous êtes retrouvé en tête à tête avec Alain pendant l'écriture du roman, avec cette histoire de jeu et de personnage unique. Alors, évidemment, enfin, moi j'ai trouvé, en tout cas, et c'est vous qui m'avez permis d'en être convaincu, un véritable hommage à l'œuvre de Philippe Dion. La langue est extrêmement travaillée, parce qu'il n'y a pas une minute d'ennui, alors que c'était le piège. J'imagine que vous avez eu très peur de cela en écrivant.
Ben, j'avais peur, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un livre que je pense que j'aurais pas été capable d'écrire il y a ne serait-ce que 5 ans. Moi, je considère que la littérature, ou en tout cas l'écriture, c'est uniquement de la technique, mais au sens le plus trivial du terme. C'est un artisanat, c'est de l'acquisition d'outils et de méthodes. Et en fait, ce qu'il y a de plus dur à apprendre, c'est à savoir se retenir, se réfréner et en enlever. C'est un peu comme certains musiciens. Le plus important, c'est pas dans ce qu'ils jouent, c'est justement les notes qu'ils ont, la maturité de se retenir de jouer. Et je pense que si j'avais dû écrire ce texte-là il y a, je vous dis, 5 ans, comme, je dirais 4 ou 6, mais je pense que j'en aurais mis plus, et du coup ça aurait été scabreux et le lecteur aurait vite saturé. Là effectivement c'est un exercice qui était d'ailleurs très très intéressant à mener. On se retrouve un peu à faire des claquettes sur des œufs de caille. Il faut faire très attention où on met les pieds, faut peser chaque effet au trébuchet. Et alors un peu à contrario de ce que je viens de dire, curieusement quand on se retrouve avec un passage où on frôle le scabreux ou le malentendu, curieusement, parfois, le meilleur moyen pour dissiper le malentendu éventuel par avance, c'est pas d'en enlever, c'est d'en rajouter, c'est de façon à ce que l'excès vienne désamorcer, c'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice face à tant de démesures et d'outrances comprennent bien qu'un peu comme dans les films de Tarantino avec le sang, il y a quelque chose d'auto-parodique qui montre bien que bon. Tout n'est pas sérieux. Et la gageure, pardon, je rajoute juste ça, c'était aussi de faire jaillir de la drôlerie, ça vous l'avez dit, et puis éventuellement de la poésie, c'est peut-être plus rare et plus dur, et en toute dernière instance, ça et là, un peu de pertinence et de nuance, de faire jaillir tout ça d'un fond qui est effectivement de l'excès, de la haine et de l'ordurerie pure. Mais voilà, c'était ça le défi.
Laurent Chalumeau, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Vous ne coupez pas à la question Rock'n'Page. Quel titre de musique avez-vous choisi pour évoquer votre roman sans en parler ?
Eh bien, comme il est cité d'une façon un peu particulière dans le roman, et que c'est un album qui a été un peu un élément déclencheur dans mon envie d'écrire un roman à la première personne, je vous proposerai un morceau de l'album Nebraska de Bruce Springsteen, qui est, comme chacun sait, un îlot un peu particulier dans sa discographie. Et pourquoi pas l'excellente chanson Atlantic City,
tout
si vous
fait.
En êtes d'accord.
C'est ça. Merci infiniment.
Well, they blew up a chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and make.
Voilà, c'était Bruce Springsteen, choisi aujourd'hui dans Rock'n'Page par Laurent Chalumeau pour évoquer son tout dernier roman qui s'intitule Vénère et qui est publié chez Grasset et dont nous venons de causer ensemble. Merci à Laurent Chalumeau encore. Cette émission touche à sa fin. Pour conclure, je vous dirais bien que si vous avez envie d'un livre qu'on ne lâche pas, qui pourrait s'accompagner d'un alcool fort ou d'un verre de vin rouge particulièrement présent en bouche, comme un bon Terrasse du Larzac par exemple, si vous avez envie de vous questionner sur les questions, sur les sujets que peut se poser monsieur tout le monde, moi, vous, elle, née dans les années 70, surtout au cœur des évolutions de notre société, si vous avez envie d'un texte qui ressemble à un accord de guitare électrique et qui est écrit dans une langue orale très très écrite et travaillée, si vous pensez que le dépente chez les les hommes n'existent pas et que, au fond, vous rêvez de le trouver, alors vraiment, bougez-vous l'arrière-train et procurez-vous Fissa, ce vénère de Laurent Chalumeau, et c'est Grasset qui régale. Tiens, tiens, comme Madame Despontes. Merci à Bruno de Divergence FM à la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous même heure, même place la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous laisse en compagnie de Monsieur Gainsbourg, qui, avec son immense requiem à lui, finira de vous dire tout le bien que je pense de Vénère, le dernier roman de Laurent Chalumeau. Allez, à tout bientôt.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, hein? Semblable à toi-même. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même.